Chers auditeurs, en ces dernières années du 19e siècle, au grand séminaire de Bayonne, trois jeunes directeurs passaient de longs moments à parler ensemble des documents publiés par Léon XIII concernant en particulier la condition des ouvriers et le ralliement à la République. Le pape avait parlé très clairement et il leur semblait que tout était fait pour que sa parole se perdît dans les sables. Il fallait agir, et pour cela aller d'abord sur le terrain, afin d'y entreprendre une œuvre civique et sociale conforme aux directives du pape. Ce fut l'abbé Pons qui se dévoua parce qu'il estimait que son enseignement était moins important et moins utile que celui de ses confrères. Le journalisme était prévu dans les plans, mais il n'arrivait qu'en seconde position, comme auxiliaire de l'œuvre proprement sociale. C'est la ville de Pau que l'abbé Pons choisit comme terrain de son apostolat. Il n'arrivait pas dans un désert. Dès 1891, l'abbé Lacaze et Fernand Butel avaient lancé le premier hebdomadaire, l'Union catholique des Basses-Pyrénées, qui, augmentée bientôt d'une édition bi-hebdomadaire, reçut l'appoint de la croix hebdomadaire de Pau. L'abbé Pons ne tarda pas à prendre en main l'œuvre de presse, et cela devait le mener à une activité qu'il n'avait pas imaginée aussi astreignante. Je voulais me consacrer aux ouvriers et aux paysans, écrit-il dans ses mémoires. J'espérais par là les rapprocher de la religion. Je ne voulais pas m'occuper de politique, encore moins d'élections si possible. Il lui faudra, dès le premier jour et toute sa vie, s'occuper de politique et d'élections. Il va en effet fonder un nouveau quotidien, le Patriote des Pyrénées, qui allait remplacer les deux hebdomadaires palois. L'abbé Pons présentait ainsi le programme de son journal. À côté d'autres journaux, il semble qu'il y ait place pour un autre journal quotidien décidé à se vouer sans relâche à la lutte. Se tenant sur le terrain constitutionnel, mais préoccupé avant tout de défendre nos croyances et nos libertés nécessaire, ce journal convida tous les bons Français, tous les honnêtes gens, à s'unir pour le triomphe de cette grande cause. Le patriote des Pyrénées s'efforcera d'encourager chez le travailleur le sentiment de son indépendance vis-à-vis des empiétements du pouvoir et de lui inspirer ses qualités d'initiative et de responsabilité qui sont les premiers attributs d'un peuple libre. En un mot, le patriote aura pour ambition d'être à la fois un journal exactement informé et le centre d'un groupe actif et militant. Ainsi se constitue-là le parti des honnêtes gens dont parle le grand pape Léon XIII et qui de plus en plus devient, avec l'aide de Dieu, en face de la révolution sociale imminente, le seul espoir de la patrie. La montée vers le succès fut rude. Les obstacles ne manquèrent pas sur la route. Mais son obstination et sa conscience qu'il avait de faire œuvre d'Église permirent à l'abbé Pons de les surmonter. Si Mgr Geoffrey s'était montré favorable au projet, à sa mort, les vicaires capitulaires firent preuve de beaucoup de prudentes réserves. Quand Mgr Gieur arriva, ce fut une hostilité à peine voilée à l'égard du patriote et de son directeur. Pendant une dizaine d'années, il y eut entre Mgr Gieur et l'abbé Pons une succession d'escarmouches qui les menèrent parfois au bord de la rupture. Mgr Gieur reprochait aux patriotes d'être un fervent admirateur des loisirs des Lemire, des Naudet, des Biraud et le champion de leur doctrine, de véhiculer des idées pour le moins suspectes. Bref, de ne pas être un journal franchement catholique. Et il demandait à l'abbé Pont de faire du Patriote un journal soumis joyeusement, affectueusement au pape, à l'évêque. Au moins travailler à l'union des cœurs et des esprits trop divisés et parfois aigris. Le diocèse ne connut pas autrefois de division. Effaçons-les, disait Mgr Gieure à l'abbé Pont. L'abbé Pont devait faire front aux attaques parfois violentes, venues de la droite aussi bien que de la gauche, et il pouvait penser que ses ennemis de droite bénéficiaient de l'indulgence d'un évêque qui lui marquait au contraire beaucoup de sévérité. Mgr Gieure n'aimait pas la République, et M. Pont s'était trop engagé dès avant l'arrivée de l'évêque. Il était trop entièrement attaché à son idée pour accorder à Mgr Gieure les atténuations d'attitude qui auraient facilité les rapports, écrivait Mgr Anat dans ses mémoires. Les difficultés s'aggravèrent en 1907, au point que Mgr Gieure pensa se débarrasser de l'abbé Pont. Celui-ci en fut averti par un prélat romain de ses amis qui avait eu un entretien avec Mgr Gieure à Rome. L'abbé Pont adressa au cardinal Méry Delval un mémoire qui fut communiqué également à Mgr Gieure. Il y précisait sa position et sa ligne idéologique en appuyant, on le comprend, sur la fidélité aux directives de Léon XIII. Le Patriote n'a été fondé en 1896, écrivait-il, que pour mettre en pratique les doctrines et les directives sociales et politico-religieuses de Léon XIII. Si le pape n'avait pas parlé, le Patriote n'existerait pas. M. Pont précisait que son journal évitait les polémiques avec les groupes catholiques et il lui arrivait de ne pas répondre aux attaques les plus violentes des journaux catholiques. Mgr Gieure reçut de Rome un avis ou une suggestion qui pouvait se résumer en ces mots « quieta non movere », ce qui est calme, ne pas l'agiter. Et l'abbé Pont resta à la tête du Patriote. L'épilogue de cette histoire mouvementée entre l'abbé Pont et son évêque eut lieu le 9 novembre 1924, au soir de la journée inoubliable où 30 000 hommes s'étaient rassemblés à Pau pour protester contre la menace d'une reprise de la persécution religieuse. Voici le récit qu'en fait Mgr Anat. Mgr Gieure réunit quelques notabilités. Il avait voulu que M. l'abbé Pont fût invité et avant de prendre la parole, il s'assura qu'il était présent. Il remercia les uns après les autres, les orateurs et les organisateurs de la journée. Puis, après un silence significatif, comme s'il avait voulu se recueillir, il ajouta « Cette journée, nous la devons à quelqu'un qui est ici, à un prêtre dont l'action persévérante au milieu des épreuves et des difficultés a seul rendu possible cette grandiose manifestation. Je tiens à le remercier au nom du diocèse en le nommant chanoine ordinaire de la cathédrale. » L'abbé Pont se leva, très ému, et sans dire un mot, alla tout simplement s'agenouiller devant l'évêque et demander sa bénédiction. Nous verrons la prochaine fois l'histoire du sillon dans le diocèse.